aujourd'hui, j'ai réuni deux travaux différents, mais qui sont liés entre eux, ne serait-ce que par le reflet d'un miroir, pour ainsi dire, parce qu'il s'agit d'un travail que j'ai fait il y a quelques années et que j'ai repris récemment sur un sculpteur florentin, disons toscan. Hier, on discutait sur les questions des villes florentines, des villes toscanes qui se détestent ou qui se aiment entre elles. Donc, disons un toscan qui a une période assez longue de séjour à Paris et plus ou moins dans la même année, dans les mêmes années, un Français qui se trouve à travailler à Florence. La chose qui est curieuse, c'est que les dates coïncident, environ 1910, mais les deux artistes ne se connaissent pas entre eux. Du moins, il n'y a aucun contact documenté. Mais on verra qu'il y a certains points de contact en réalité. Ce qui les réunit, et c'est la raison pour laquelle je les ai réunis dans le contexte du projet de recherche que vous êtes en train de développer, c'est que ces deux artistes, d'une façon totalement différente, mais ont une sorte de point en commun, c'est-à-dire l'héritage du Quattrocento toscan, pour des raisons totalement différentes, et même avec des solutions différentes. Je commence par le toscan à Paris. Alors, j'imagine que peut-être vous n'avez pas tous une connaissance capillaire de la géographie toscane. Alors, j'ai pensé vous signaler l'emplacement des trois villes essentielles pour la carrière de ce sculpteur. Alors, sa petite ville de naissance est Pescia. C'est une petite ville qui est connue essentiellement pour, disons, deux ou trois raisons. La raison commerciale, qui la rend encore relativement connue et importante, c'est pour la production des fleurs. Il y a un marché de fleurs international qui est très important, le plus important en Toscane, après la Ligurie, naturellement, qui est l'autre région qui produit les fleurs. Mais les deux autres points d'intérêt, disons, de Pescia, sont la présence d'une villa qui a été achetée par Sismondi, et donc cet économiste politicien de l'époque romantique, qui a vécu longtemps à Pescia, et à deux pas de Pescia, Collodi, c'est-à-dire la patrie de Pinocchio. Pescia, dans les années qui nous intéressent, vous avez vu, j'ai mis les dates de naissance de Andreotti, 1875, et à cette époque, Pescia faisait partie de la province de Lucques. Maintenant, elle appartient à la province de Pistoia. Ce qui nous explique le fait que ce jeune artiste qui n'avait aucune préparation officielle, disons, il s'est formé comme ça dans la rue, en un certain sens, dans la rue et dans sa petite ville, où l'œuvre plus importante, mais qui est importante aussi parce que ça laisse une trace, pour ainsi dire, dans l'esprit, dans la mémoire du jeune sculpteur. Cette œuvre importante, c'est une grande pala d'altare, non, du XIIIe siècle. Et cet aspect d'archaïsme va rester dans la mémoire de ce sculpteur. Pas dans les œuvres que nous allons voir, mais dans les œuvres plus tardives. Donc, naturellement, Pescia n'offrait pas de grandes possibilités. Et il est assez jeune, il se déplace à Lucca, Et là aussi, la vie de cette ville est une vie intellectuelle importante parce que Luc était un lieu traditionnellement de visite internationale, de tourisme international, et surtout grâce au fait que dans la province, il y avait aussi la côte, la Versilia, c'est-à-dire Viareggio, surtout à l'époque Viareggio et Torre del Lago. Mais là aussi, il y avait, dans cette ville, il y avait des institutions régulières, disons des académies, des écoles d'art, mais le lieu, disons, le plus vivant, dans certains sens, non, les échanges culturels, était un café. Et ce café, qui existe encore avec d'autres noms maintenant, ce café était propriété de ce monsieur, vous voyez, Alfredo Caselli, un type tout à fait bizarre, qu'on connaît assez peu, mais on a perdu malheureusement ses archives, et donc c'est une reconstruction assez difficile à faire. Mais c'est un personnage vraiment curieux qui a visité le monde entier, et il voyageait beaucoup, surtout en Europe orientale et en Orient. Même pour des raisons commerciales, parce que son café était une épicerie et donc il y avait tout un échange même de produits qui venaient de l'Orient. Mais c'est les amitiés que Caselli entretenait qui sont importantes, parce que Andreotti arrive à Luc et il devient tout de suite ami de ce jeune, ils avaient le même âge, de ce jeune Caselli. Et à travers lui, il arrive à connaître des personnages importants qui rôdaient, pour ainsi dire, autour du café. Giacomo Puccini, je crois que c'est un nom qu'on peut même ne pas commenter, parce que je crois qu'il a une renommée assez importante. Et c'est un ami intime de Caselli. Et vous voyez, il y a une lettre, j'ai mis comme ça comme exemple, une lettre plus ou moins de cette époque de Puccini qui écrit à Caselli, et la caricature de Puccini au piano faite par Leonetto Cappiello, ce Livournais qui avait laissé Livourne et la Toscane pour venir très tôt à Paris et devenir fameux non comme décorateur et dessinateur d'affiches. Et c'est la caricature justement de Puccini au piano, faite en 1898, au moment où Puccini était déjà très, très connu, très fameux. Et c'était le moment où Puccini à Paris était en train de travailler à la Tosca. Il avait déjà fait la Bohème, donc il avait déjà eu un grand succès auparavant. L'autre amitié intime de Caselli, et donc même d'Andreotti, c'est un des trois grands poètes de la littérature italienne de cette époque, D'Annunzio d'une part, Carducci d'autre part, et Giovanni Pascoli. Et justement, grâce à Caselli, il y a eu une relation importante entre le poète et notre sculpteur. Ici, je vous ai présenté l'édition illustrée d'un recueil de poésie qui a été publié en 1897 dans la version illustrée. Et je vous la présente parce que c'est un petit modèle d'illustration de texte, de livre illustré auquel Andreotti va prêter une grande attention. La poésie de Pascoli est même assez intéressante par ailleurs, parce que à cette époque, à cette date, la poésie date de 92, et à cette date, il s'intéresse au train. C'est l'une des premières poésies consacrées au train, cette machine infernale, comme disait Carducci aussi. Satan, non, Satana, Satana, c'était le chant de Carducci. Et les deux vers qui ferment la poésie sont relativement intéressants parce que, comme ça, donnent une idée même de la modernité de la poésie de Caselli dans certains cas. e i fili di metallo a quando squillano immensa arpa sonora al vento. C'est-à-dire, ce serait les fils de la voie ferrée, non? Les fils de métal qui de temps en temps résonnent sous le vent, avec le vent, et comme une immense harpe sonore. Et l'idée de mélanger la modernité, non? Les fils de la voie ferrée qui jouent comme un instrument musical, c'est pas tout à fait banal. Et j'ai mis l'illustration du livre de Pascoli parce que c'est un peu le modèle c'est le point de départ de Andreotti. Andreotti a lu n'arrivait évidemment pas, enfin, il avait un certain moment, il a une famille assez pauvre, la sienne, et il décide de quitter la Toscane et il se déplace en Sicile. Il va à Palerme. Et avec une lettre de présentation de son oncle, qui était un professeur d'école élémentaire et qui écrivait des livres pour l'école. Et il la publiait beaucoup. Et ses livres étaient naturellement, comme c'était des livres qui s'adressaient à des jeunes d'une dizaine d'années, plus ou moins, étaient presque tous illustrés. Et alors, le premier livre auquel Andreotti, sur lequel il travaille, et un livre de son oncle, que j'ai retrouvé. On savait qu'il avait fait cette œuvre, mais on n'arrivait pas à le retrouver dans les bibliothèques italiennes. Finalement, à Ravenne, il y a le seul exemplaire qu'on trouve dans les bibliothèques publiques en Italie. Et c'est le premier travail qu'il fait à Palerme. Pourquoi à Palerme? Parce qu'à Palerme, il y avait un des grands éditeurs pour des livres pour l'école. C'est un éditeur scolaire essentiellement, Sandron, qui existe encore d'ailleurs. Et chez Sandron, Andreotti commence à devenir peintre, en un certain sens. Ça, c'est l'intérieur. Vous voyez, c'est un artiste totalement, on dit autodidacte. Mais qui a évidemment vu et absorbé aussi beaucoup de connaissances à travers les grandes revues internationales. Parce que Caselli, à Luc, était abonné aux grandes revues internationales. C'était une façon d'apprendre et de connaître sans voyager, en un certain sens. Les grandes revues, surtout anglaises, françaises, mais surtout anglaises. The Studio, essentiellement, c'était la grande revue internationale. Et donc, on voit que Andreotti connaît l'illustration française, connaît l'illustration anglaise, mais ici, dans ce cas-là, surtout l'illustration française. Et à Palerme, il trouve aussi, comment dire, son premier mécénat. C'est un prince dont on a parlé hier soir, tout à fait par hasard, un prince d'une grande famille sicilienne qui s'appelle Tasca di Cutor. Et c'est un prince qui a un véritable dandy, qu'il traversait la ville habillé à la mode, à la page. C'est un personnage qui a, comment dire, auquel Andreotti a essayé que Andreotti a essayé d'imiter. Il a appris beaucoup dans cette forme d'extériorité, en un certain sens, non, d'élégance tout à fait visible. Le dandy fin de siècle. Et naturellement, dans cette forme de dandysme, il y avait aussi une pensée politique. Et le prince, qui vivait dans un palais princier de Palerme, était en réalité un socialiste féroce. Il a publié un petit journal à ses frais. Il a publié un petit journal qui s'appelle La Battaglia Settimanale. Et il a employé Andreotti pour les illustrations. Et donc, Andreotti, pendant 2 ans, travaille comme illustrateur dans ce journal socialiste. Naturellement, une idéologie que Andreotti partageait, naturellement. Et ça lui a porté aussi des problèmes. Évidemment, parce que Par exemple, il avait fait une caricature de ce monsieur, Raffaele Palizzolo, un homme politique important dans la politique italienne de la fin de siècle, qui avait eu un procès interminable parce qu'il avait été accusé d'avoir pratiquement de l'assassinat d'un autre politique libéral. Et on avait même démontré qu'il avait des liens très forts et documentés justement avec la mafia. Et alors le brave Andreotti s'était permis de faire une caricature de ce personnage, ce qui a certainement provoqué pas mal de problèmes. Le résultat est que donc Andreotti est arrivé à Palerme en 1898 et en 1900, il repart. Et la chose curieuse, c'est que c'est justement une découverte que j'ai faite tout à fait par hasard. La première trace internationale d'Andreotti, qui était totalement inconnue naturellement, on la trouve dans un journal socialiste français, Le Rappel, où il y a en première page cette nouveauté comme ça qui arrive de la Sicile, le suicide d'un adversaire de la mafia. Et Monsieur Libero Andreotti, collaborateur du journal La Battaglia, fondé pour combattre la mafia, a tenté de se suicider en avalant une forte dose de sublimé corrosif. Son état est fort grave. Il refuse d'indiquer les motifs qui l'ont poussé à cet acte de désespoir. Et naturellement, c'est le prince qui a fait arriver l'information et l'a fait publier à Paris. C'est tout à fait remarquable, cette chose. Alors, le suicide, évidemment, on sait qu'il y avait eu cette tentative de suicide réellement, mais sans d'autres informations. On n'a jamais su les raisons réelles. Andreotti, une fois, avait été. Il avait eu une sorte d'interview avec un journaliste qui lui demandait les raisons de ce suicide. Et lui, il a dit simplement parce qu'il avait les chaussures qui étaient trop serrées, trop étroites. Et on ne l'a jamais su en réalité. Il y a eu un duel pour des raisons de femme, parce que ça, c'est un autre des grands problèmes d'Andreotti. Et problème, enfin, c'est un problème relatif, mais enfin, je veux dire. Et alors, enfin, le fait est qu'il laisse la Sicile et il rentre à Lucques pendant quelque temps, toujours comme grand illustrateur. Et il publie cette sorte de maquette d'une vingtaine d'images réunies et où il y a les caricatures des personnages plus ou moins fameux de la ville. Et on voit ici que Andreotti est devenu un véritable grand dessinateur, avec un sens de l'esprit, de l'humour, l'humour en images, non, vraiment formidable. J'ai fait un choix. À gauche, on reconnaît Puccini, encore une fois. On reconnaît facilement le chapeau et la cigarette. Et les deux, je pense que c'est des jumelles, j'imagine, qui marchent comme ça, sont formidables. De même que c'est les faux intellectuels de café, non, comme ça, ou les militaires peu machos. Et à Florence, naturellement, l'activité était beaucoup plus importante avec les éditeurs, surtout les éditions populaires, et toujours dans le milieu socialiste. Et cet éditeur qui s'appelle Nerbini est un éditeur spécialisé pour les publications du milieu intellectuel socialiste. Et il avait créé une série de volumes des grands textes de la littérature internationale traduits en italien et qu'on vendait par fascicules illustrés. Et Andreotti en fait trois, si je me souviens bien, dont le plus important, selon moi, est la traduction et l'illustration de L'homme qui rit de Victor Hugo. Donc, déjà, à cette date, 1903, Andreotti a une attention spéciale pour la culture française. Et comme illustrateur, il devient, comment dire, c'est incroyable, c'est d'un artiste, d'un homme qui n'a jamais, ne s'est jamais déplacé pour le moment, qui a vécu même pas à peine, tout à peine à Florence. Il est vrai que Palerme était, à cette date, à la fin du 19e et début 20e, était une capitale européenne. Palerme était vraiment une ville d'une richesse et d'une ouverture intellectuelle tout à fait remarquable. Mais enfin, le fait est que on a l'idée que ce jeune artiste est un homme qui se forme par lui-même et avec une capacité de s'orienter dans les directions les plus variées, avec une sensibilité tout à fait remarquable. Et justement ici, dans cette série d'illustrations, on voit que Andreotti a une ouverture internationale, et non seulement vers la France, mais surtout vers les grands artistes du nord de l'Europe. D'une part, il est évident qu'il connaît les grands précédents de la peinture, comment dire, pré-surréaliste, en un certain sens, de la culture romantique internationale, et donc Fuseli, surtout, mais même les artistes plus modernes, plus récents, surtout Munch, qu'il a pu connaître parce que on le trouvait facilement reproduit dans les revues qui circulaient en Italie. Ça, c'est un dessin que j'ai trouvé dans ses archives. C'est un très beau, deux dessins très beaux qui sont évidemment liés aux illustrations et aux gravures de Munch. Vous voyez, ici, j'ai pris la reproduction d'une page d'une des revues les plus importantes italiennes de l'époque, c'est la revue Emporium, qui proposait une quantité énorme d'informations sur les évolutions de la culture européenne. À Florence, il y avait par contre un artiste suédois, un jeune sculpteur suédois, absolument complètement fou, il paraît, qui a eu une certaine importance. Il est resté à Florence pendant 1 an et demi, plus ou moins. Mais il vivait dans le milieu où vivait Andreotti aussi. Et donc, c'est à travers Edström, probablement, que Andreotti a pu être intéressé, orienté vers cette culture de la Scandinave. Non, quand Andreotti s'est proposé au public et à la critique, il a été immédiatement critiqué, disant que c'était une sorte de Ibsen en image, et donc une forme de pessimisme et de nihilisme qui ne plaisait pas naturellement à un certain côté de la critique de l'époque. Et c'est un sculpteur vraiment curieux, mais qui a évidemment des liens. Il connaissait naturellement Munch parfaitement. En 1907, finalement, Andreotti, pendant ce temps, s'est déplacé de Florence à Milan. Et Andreotti fait ça, comment dire, il apparaît pour la première fois dans une exposition vraiment internationale et importante, c'est-à-dire la Biennale de Venise. À la 7e Biennale de Venise, c'était une des plus importantes du groupe début du siècle, surtout grâce à cette salle internationale où, sous le titre de l'Arte del Sogno, l'art du rêve, on avait réuni une grande quantité d'artistes du monde entier. Et donc, il y avait des Italiens, naturellement, mais il y avait aussi des Français, il y avait Pius de Chavannes, par exemple, et il y avait des artistes du nord de l'Europe. Et Andreotti, une sculpture, il y a très peu de choses, et de Andreotti, il y avait cette petite sculpture sur la gauche. Et vous voyez, en pendant avec une autre sculpture sur la droite. La sculpture d'Andreotti est celle-là, Pur sang, 1907, justement. Et une sculpture qui avait intéressé un peu la critique de l'époque, parce que c'était une forme de, comment dire, de relecture d'un des plus grands sculpteurs et des plus fameux sculpteurs de l'Europe de la fin du siècle et début 19e, un prince lui aussi russe qui vivait en Italie. Mais c'est une sorte de cosmopolite, non? Il tournait un peu partout. Et Paul Trubetskoy. Et vous voyez que le sujet est essentiellement le même. Et soit la différence, naturellement, que Trubetskoy, c'est un portrait une fameuse femme, grande femme de la haute noblesse internationale, la marquise Casati. Tandis que Andreotti, ce n'est pas un portrait, mais c'est simplement une jeune fille avec un livrier. Mais ce qui intéressait, c'est que l'interprétation que Andreotti donne du même sujet, avec surtout le chien, on voit très bien, Trubetskoy a une sorte d'attention pour une reproduction naturaliste, en un certain sens, non? Tandis que Andreotti essaie de voir plutôt l'aspect de la lumière, non? C'est une sculpture faite avec à coups de pouce, non, à un certain sens. La sculpture qui était en pendant avec l'œuvre d'Andreotti était l'œuvre d'un des plus grands sculpteurs et plus fameux sculpteurs de l'époque, un sculpteur belge, Georges Mine, et avec un sujet qui rentre dans cette idée du pessimisme nordique, non? Et avec ce sujet de la mère qui pleure avec son enfant dans les bras. Et c'est une œuvre qui n'était pas de 1907, mais encore de 1886. Mais ce qui est intéressant, c'est que Andreotti, qui était pratiquement un inconnu, un jeune inconnu, a été placé en pendant avec un des plus grands sculpteurs de l'Europe. Donc il a eu une sorte de présence, d'apparition tout à fait importante. Et là commence aussi ce parcours à Milan. Ce parcours de Andreotti vers la culture française. Un aspect qui est important et qui caractérise toute son activité de cette époque, c'est le lien entre l'image et la littérature. On l'a appelé une sorte de poète du plâtre. Et alors il fait une série d'œuvres qu'on peut relier à la littérature qui vont dans la direction de la culture française. Ça, c'est un sujet, c'est la jeune femme avec le chat sur la tête. On voit pratiquement pas la tête de la femme, mais parce qu'elle se cache avec le chat qui est bondi sur le crâne. Et c'est évidemment une interprétation d'un des thèmes disons, les plus fameux de Edgar Allan Poe, mais que Andreotti connaît à travers la traduction de Baudelaire, qui était la traduction qui circulait le plus fréquemment, même en Italie. Et donc sur sa tête, avec la gueule rouge dilatée et l'œil unique flamboyant, était perchée la hideuse bête, non? Ce chat noir qui bondit sur la tête de la femme. Et nous sommes en 1908. Le contact direct et documenté avec la littérature française, c'est avec cette œuvre splendide qui maintenant malheureusement a disparu après la mort des héritiers. Et elle a été présentée à plusieurs expositions avec des titres différents. Enfin, le titre le plus fréquent était l'aînée. La sœur plus grande qui s'occupe de la sœur plus petite. Et on sait que Andreotti avait comment dire, imaginé ce sujet après la lecture d'une des poésies plus fameuses de Rimbaud, d'Arthur Rimbaud, qu'Andreotti pouvait lire en français, parce que désormais il savait assez le français, mais était connu en Italie à travers une excellente traduction d'un poète génois, Checardo Catagliata Checardi, qui avait fait vraiment une excellente traduction de certains poèmes de Rimbaud. Et la poésie de Rimbaud, elle est chercheuse de Pou. Et donc, ce qui explique le rapport entre les deux personnages et la sœur la plus grande, l'aînée, qui en réalité est en train de faire craquer les poux sur la tête de la sœur plus petite. Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée, promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs. Et assez bien traduit par Ceccardo. Encore à Milan, ça c'est les dernières œuvres que Andreotti fait à Milan, et des reliefs sans titre, donc sans sujet indiqué, qui est relativement important aussi, le fait qu'il n'y ait ce choix de sujets, comment dire, qui sont proposés seulement à la imagination du spectateur. Et avec ces personnages de jeunes filles ou de jeunes hommes, très, très minces, souffert, qu'on ne voit pas, une souffrance qu'on ne voit pas, mais qu'on imagine à travers le corps. Selon l'exemple, justement, de nouveau, de Georges Mine, qui est certainement l'un des sculpteurs auquel Andreotti a prêté le plus d'attention. Nous sommes donc 1910. Andreotti avait quitté Milan et était déjà arrivé à Paris. En 1907, à Paris, Andreotti avait une grande salle avec 40 œuvres qui avaient été présentées par la grande galerie milanaise qui avait ouvert une galerie à Paris, Grubici. C'était peut-être la galerie la plus importante d'Italie à l'époque. Et il avait présenté tout le mouvement qu'on appelle des divisionnistes milanais, lombards, et avec une salle, justement, complètement consacrée à Andreotti, avec 40 œuvres, au Serre du Cours de la Reine. Quand il arrive à Paris, Andreotti est un homme aussi qui est très sûr de lui-même et il sait exactement ce qu'il faut faire. Le fait qu'il ait laissé Luc pour aller à Palerme, qu'il ait laissé Florence pour aller à Milan, et de Milan, laisser Milan pour aller à Paris, c'est un parcours, comment dire, exemplaire d'un artiste qui sait même gérer son personnage. Il arrive à Paris et la première chose qu'il fait, il doit trouver un mécénat. Il trouve un grand mécénat et c'est un des deux plus grands couturiers de l'époque à Paris, Jean-Philippe Huert. Et grâce à Huert, il entre dans le monde de la high society de Paris. Et ici, vous voyez Huert avec sa famille. À gauche, les vêtements typiques de Worth de cette époque et le portrait, une plaque portrait que Andreotti lui avait fait. Le résultat est que naturellement, il trouve aussi, on a besoin d'un mécénat, mais on a besoin aussi d'un critique parce qu'il faut avoir être soutenu de deux côtés, non? Du côté économique d'une part et du côté publicitaire de l'autre. Et il trouve un critique important de l'époque à Paris, Gabriel Mouret, qui s'enthousiasme pour sa sculpture et donc le publie dans une des revues spécialisées plus importantes de l'époque, avec un article complètement consacré à sa sculpture dans L'Art et les Artistes. Alors là, il est intéressant parce que, si je sais pas si vous arrivez à le lire, mais le premier paragraphe est important parce que ça donne tout de suite la perspective, ça, ou la perspective de comment la critique française avait comment dire, caractérisé la sculpture d'Andreotti. Il dit, bien qu'il ne soit pas à l'ombre lumineuse de Campanile de Giotto, parce qu'il n'était pas né à Florence, non? Et donc, mais dans cette charmante petite ville de Pescia, qui voisine avec Luc et avec Pistoia, donc il a reconstruit immédiatement la situation de la Toscane. Il est, malgré tout, il est florentin comme tempérament et comme instinct. C'est dans l'intimité de Michelozzo et de Mino da Fiesole, de Desiderio da Settignano et d'Agostino di Duccio, de Rossellino et de Sansovino qu'il a appris son métier et il a respiré, au moment de sa formation, le souffle du réalisme épique du grand Donatello. Donc l'interprétation que un critique intelligent, par ailleurs, est très à la page aussi. Andreotti, il le voit comme l'artiste qui a su traduire dans un langage moderne, contemporain, la grande tradition de la sculpture de la Renaissance florentine. Donc c'est un interprète moderne du grand passé de la sculpture florentine. Tous les noms que Mouret a fait dans ces deux, trois lignes, c'est exactement toute la grande ligne des grands sculpteurs de Donatello arrive donc de la moitié du XVe siècle, arrive au début du XVIe avec Sansovino. Ça, c'est intéressant parce que, évidemment, ça donnait même une image, ça construisait une image d'Andreotti qui pouvait avoir une bonne chance sur le marché même français. Mais il connaît le grand monde parisien et il a peut-être un lien pas seulement professionnel avec Ida Rubinstein, la grande danseuse des ballets russes. Naturellement, il a le grand problème, qui n'était pas seulement d'Andreotti, mais de n'importe quel sculpteur de l'époque, c'était arriver à trouver un emplacement sous cet énorme poids de Auguste Rodin. Et pour un jeune sculpteur, au début du siècle, à Paris, dans le monde entier, mais à Paris surtout, le grand problème était de ne pas se faire... c'est un peu trop... se faire bouffer par Rodin. Et Andreotti accepte cette sorte de défi et il fait une série d'œuvres qui ont tout très clairement des liens avec Rodin. Mais on voit ici, c'est une sorte de Rodin mis en géométrie, simplifié. Et ça va être probablement la voie que Andreotti va parcourir, qui va le sauver peut-être d'un rodinisme de retour qui n'aurait porté guère loin. Naturellement, à Paris, à cette époque, en 1907, 1908, 1910, c'est encore il y a encore une forte présence de la poésie symboliste de fin 19e. Et Andreotti, qui a toujours eu cette passion pour la littérature, lui-même, il s'est toujours défini une sorte de poète raté. Et Andreotti connaît un groupe de poètes. Il participe aux soirées qui sont dédiées à Paul Fort. Et il invente deux œuvres, Le Chêne et l'Olivier. C'est une sorte de couple d'œuvres de bronze très beaux, de grandes dimensions, comme ça, qui sont assez évidemment une interprétation d'un poème de Émile Verhaeren qui s'appelle L'Arbre. Et c'est là où il y a cette idée d'inventer le tronc des deux arbres, non, avec une sorte de bouquet de corps féminin. Dans l'arbre, on lisait justement, l'arbre semblait habité par un million d'âmes qui doucement chantait en son branchage creux. Ça, c'était les vers de l'arbre de Verhaeren que Andreotti, évidemment, récupère et interprète en images. Mais il y a un autre aspect, le chêne et l'olivier. Le sujet n'est pas banal, parce que chêne et olivier, à cette époque, ça signifie une représentation des deux arbres symboliques du côté nationaliste de la culture française. D'une part, le nationalisme radical, disons de Pelletier, par exemple, qui soutenait la grande tradition, je vais vous récupérer, la grande tradition celtique. Pelletier allait avec Jacques Reboul, et Jacques Reboul avait ce fameux texte, non, sous le chêne celtique. Je crois que ça, c'était la ligne radicale du nationalisme de l'époque, mais il y avait aussi l'autre ligne de nationalisme, comment dire, modéré, qui préférait voir le lien entre la culture française et la culture méditerranéenne. Et donc, avec Paul Adam, essentiellement. Ce qui fait que le lien entre les deux arbres symboliques, le chêne comme symbole de la culture celtique et l'olivier comme symbole de la culture méditerranéenne, indique que Andreotti était entré dans ce monde, introduit probablement même par un autre Italien qui rôdait dans le quartier, un Italien qu'on appelait le Barisien, parce que c'était un Parisien qui arrivait de Bari, et donc des Pouilles en Italie, et Ricciotto Canudo, il s'appelait. Et Ricciotto Canudo, le Barisien, justement, soutenait l'idée, de réunir, en un certain sens, les deux lignes de la cette descendance symbolique de la culture française, le chêne celtique et l'olivier de la Méditerranée. Mais le personnage qui certainement a été décisif pour l'entrée de Andreotti dans ce milieu était une femme, encore une fois. Il y a toujours eu des femmes qui l'ont introduit et l'ont soutenu. Un personnage tout à fait remarquable de la culture parisienne de l'époque. Elle avait une relation très connue avec Ricciotto Canudo et même avec Andreotti. Et Andreotti lui fait une médaille avec le revers de la médaille avec l'inscription « Excitare superbos ». Donc c'est une idée comme ça de cette Amazone, non, qui chevauche, toute nue, chevauche vers le, comme ça, une sorte de héros féminin. Et puis, bon, il y a un petit document qu'on trouve dans les archives d'Andreotti, une invitation encore de Valentine de Saint-Point, qui invite Andreotti pour une soirée, une de ses soirées dans son studio, pour une soirée consacrée à Igor Stravinsky. Donc, Andreotti est dans le milieu de l'avant-garde des années 1910-1911. Stravinsky le Rossignol n'était même pas fini encore. Et d'ailleurs, dans l'invitation, vous voyez, le Rossignol, entre parenthèses, il y a fragments, parce que Stravinsky était encore en train de travailler, il va la terminer, je crois, dans les années 1915 ou 16, enfin, pendant la guerre. Tandis que cette invitation devrait être plus ou moins, grosso modo, 1913. Et alors, Valentine de Saint-Point est un personnage, justement, important pour Andreotti, parce que c'est elle qui va le présenter et essayer d'expliquer la position tout à fait particulière qu'Andreotti a par rapport à Rodin. Valentine de Saint-Point avait une connaissance profonde et intime de Rodin. Elle avait travaillé avec lui, elle avait appris elle était devenue sculpteur grâce à Rodin. Elle a écrit beaucoup d'articles sur Rodin. Et donc, c'était la personne la plus indiquée, en un certain sens, pour trouver une formule qui puisse caractériser Andreotti et le rendre différent par rapport à Rodin. Ça, c'est elle. Et justement, elle va publier en 1911, elle va publier un article entièrement consacré à Andreotti dans la nouvelle revue. C'était une revue qui était la revue de Paul Adam essentiellement, et où elle touche du point de vue critique est assez intéressant. Elle commence avec une longue introduction qui concerne essentiellement Rodin et l'idée qu'elle a de la sculpture idéiste. On a eu des difficultés énormes à retrouver cet article parce que du moment que dans le titre il n'y avait pas le nom de Andreotti, on savait qu'elle avait écrit parce qu'on conserve aux archives d'Andreotti, on conserve des lettres de Valentine de Saint-Point où elle disait qu'elle parlait de cet article. Mais elle ne disait pas dans quelle revue elle le publiait et donc on n'arrivait pas à le retrouver. Finalement, là aussi par hasard, des fois les choses arrivent par hasard. Je suis arrivé à le récupérer. L'idée dans la sculpture moderne, sculpture idéiste. La définition est assez simple et claire. Qu'est-ce que la sculpture idéiste? C'est une idée non qui est arrêtée dans les formes, mais une idée qui se dégage des formes. C'est-à-dire, ce n'est pas une idée qui naît d'abord et puis trouve son application, pour ainsi dire, dans l'image, mais élaborer une image indépendamment de l'idée, mais c'est l'image qui fait ressortir l'idée. Donc, ça ne doit pas être, une œuvre d'art ne doit pas être littéraire a priori, mais c'est la forme qui révèle l'idée. Naturellement, ça, elle le développe en le mettant en relation avec la grande tradition française de l'architecture gothique, où la forme, en un certain sens, fait dégager l'idée religieuse. Monsieur Liber Andreotti n'est ni un élève de Rodin, ni un disciple de Rodin. Il ne s'est pas inspiré directement de Rodin. Il connaît peu son œuvre. Il admire Rodin, mais il n'a pas voulu connaître mieux son œuvre. C'est totalement faux. Ça, on sait que Andreotti connaissait parfaitement Rodin. D'ailleurs, c'était impossible de ne pas le connaître. Ça, c'est une belle photo de Andreotti qui travaille à l'ébauche de la nouvelle sculpture qu'il est en train de préparer avec son ami modèle devant lui. Et ça, c'est l'œuvre à laquelle il est en train de travailler. Le miracle. Alors, moi, là, j'ai dû présenter sur la même diapositive les deux parties. L'œuvre a été présentée, n'était pas coupée en deux, comme ça, mais les bras étaient complets. C'est-à-dire, la sculpture avait le torse et les bras au-dessus de la tête qui n'existe pas. C'est seulement plus tard, en 1920, plus ou moins 20-21, que Andreotti a décidé de couper et de détacher les bras du torse et laisser le torse tout seul et les bras à part. Et alors là, c'est naturellement, c'est le grand problème de comprendre en quelle mesure Andreotti, une œuvre de ce genre d'Andreotti, n'est pas rodinienne. On sait que l'œuvre sur laquelle Andreotti réfléchit de Rodin, c'est l'homme qui marche. Bon, il y a plusieurs versions, mais l'homme qui marche, on sait, non, c'est une œuvre qui était sans tête et sans bras. Ça, c'est une autre version. Et Valentine dit que l'homme qui marche arrêtait plastiquement un mouvement. l'œuvre de Monsieur Liber Andreotti meut une expression. Et donc, elle synthétise cette idée en disant que Rodin cherche l'expression du mouvement, tandis qu'Andreotti cherche le mouvement de l'expression. Elle renverse un jeu de mots, elle renverse les deux éléments, mais c'est une inversion qui est suffisamment claire. C'est-à-dire, le fragment du corps humain, chez Rodin, est la synthèse d'une représentation du mouvement. Elle dit à un certain moment que si l'homme qui marche de Rodin avait eu la tête ou les bras, ça aurait été une sorte de personnalisation. Ça n'aurait pas donné cette idée générale du mouvement du corps humain, parce que ce n'est pas le mouvement d'un personnage, c'est le mouvement. Et donc, en ne représentant pas la tête, non, ça élimine l'élément de personnel, d'individu. Tandis que, selon Valentine, Andreotti cherche seulement l'expression d'un mouvement, qui est quelque chose de légèrement différent, mais suffisamment différent. Le fait est que Andreotti, nous sommes en 1911, c'était le moment où à Rome, il y avait une des plus grandes expositions qui ont été faites en Italie à cette époque, c'est pour le cinquantenaire de l'unité d'Italie, 1861-1911. Et c'est une énorme exposition qui a été faite et qui était organisée pour la partie artistique, organisée par un critique italien qui était ami depuis longtemps de Andreotti, Vittorio Pica, et Pica invite Andreotti à l'exposition romaine et Andreotti lui propose cette œuvre. Il envoie les photos et Pica n'est pas satisfait et il écrit un mot sur une carte postale et lui dit « Cette œuvre est trop rodinienne ». Andreotti devient un animal. Il lui répond complètement, il perd la tête complètement et l'envoie, enfin, on dit un mot comme ça qu'il ne faut pas dire, et les rapports s'interrompent sur cet épisode. Mais pourquoi Pica dit que l'œuvre... Pica ne pensait pas que dire qu'une œuvre était rodinienne aurait pu être un commentaire négatif. Lui pensait au contraire faire presque un éloge dans un certain sens, non? Et Andreotti, qui vivait dans ce monde parisien où il y avait le problème justement de se distinguer de Rodin, il ne pouvait pas admettre l'idée d'être rodinien. Et il dit, vous n'avez rien compris du tout, c'est même relativement vrai. Et donc l'œuvre, Andreotti ne l'envoie pas à Rome. Et donc, lui ne sera pas présent à cette grande exposition romaine. Et donc, il continue à travailler sur cette ligne. Et l'article de Valentine termine avec une anticipation sur l'œuvre à laquelle Andreotti est en train de travailler, qui s'appellera « L'arbre », encore une fois. Et cette fois, naturellement, encore une fois, c'est le texte de lequel Andreotti part, c'est de nouveau l'arbre de Verhaeren. Et alors là, bon, on trouve des relations très immédiates. J'allais vers lui les yeux emplis par la lumière. Je le touchais avec mes doigts, avec mes mains. Je le sentais bouger jusqu'au fond de la terre, d'après un mouvement énorme et surhumain. Et j'appuyais sur lui ma poitrine brutale, avec tel amour, une telle ferveur, que son rythme profond et sa force totale passaient en moi et pénétraient jusque à mon cœur. Alors j'étais mêlé à sa belle vie ample. Je m'attachais à lui comme un de ses rameaux. Il se plantait dans la splendeur comme un exemple. J'aimais plus ardemment le sol, les bois, les eaux, la plaine immense et nue où les nuages passent. J'étais armé de fermeté contre le sort. Mes bras auraient voulu tenir en eux l'espace. Mes muscles et mes nerfs rendaient léger mon corps et je criais « La force est sainte ». Il n'y a aucun doute que l'image d'Andreotti est construite, en certain sens, sur la lecture et l'interprétation du poème de Verhaeren. Et le fait est que l'œuvre n'était pas terminée quand Valentine écrit, et Andreotti ne va pas la présenter comme ça à Paris, à l'exposition de Paris, mais il va la présenter comme ça. Un triptyque avec l'arbre au milieu, mais à gauche et à droite avec deux hauts reliefs, encastrés dans un système d'architecture qui est directement inspiré du temple de Selinunte à Palerme. Et donc, avec tout d'un coup, il récupère un modèle de la tradition italienne, ou disons de la Grèce italienne. Et à côté de l'arbre, il met deux reliefs avec les amants sur la droite et la procréation, disons, sur la gauche, maternité, le triptyque à ces trois sujets différents. Donc l'arbre dans le centre, les amants ou l'amour à droite et la maternité à gauche. Et là aussi, on voit que c'est Valentine qui est arrivée et a laissé, sa trace. Andreotti songe aussi à éclore la sensualité de la nature et de l'homme dans la floraison sexuelle. Valentine est connue parce qu'en 1912, c'est-à-dire plus ou moins à l'époque où elle fréquentait Andreotti, Valentine, pour le fameux manifeste qu'elle publie avec Filippo Tommaso Marinetti, parmi les manifestes futuristes. Et le manifeste de la femme futuriste, qui est publié au mois de mars de 1912, « Tout surhomme, tout héros, si épique soit-il, tout génie, si puissant soit-il, n'est l'expression prodigieuse d'une race et d'une époque que parce qu'il est composé à la fois d'éléments féminins et d'éléments masculins, de féminité et de masculinité, c'est-à-dire qu'il est un être complet. Et puis, la femme, et ça c'est ce qui nous donne la solution du triptyque, la femme doit être mère ou amante. Les vraies mères sont toujours des amantes médiocres, et les amantes, des mères insuffisantes, par excès. Égales devant la vie, ces deux femmes se complètent. La mère qui reçoit l'enfant avec du passé fait de l'avenir. L'amante dispense le désir qui entraîne vers le futur. » Ça, c'est exactement l'explication du sujet d'Andreotti. Les amants, donc, d'un côté, mais les amants qui se... qui se traduisent en un certain sens dans la famille. Et donc, l'amante est la mère. La mère qui reçoit le fils. Donc, c'est exactement une traduction presque littérale du texte du manifeste de Valentine. Et ça, c'est le point, de contact le plus fort entre Andreotti et... Du point de vue... esthétique. Andreotti est en train de grandir, pour ainsi dire. C'est-à-dire, il arrive à comprendre qu'il doit effectivement essayer d'éviter ce contact presque trop direct avec Rodin. Et alors, le panneau central, qui est encore une forme de rodinisme relativement visible, s'accompagne ici des deux panneaux de droite et de gauche, où l'élément de Rodin est complètement disparu. mais il y a une forme de synthèse dans les formes du corps humain, une synthèse qui est totalement en dehors du modèle de Rodin, mais révèle au contraire que Andreotti s'est approché des plus jeunes sculpteurs français et surtout de Maillol, qui propose déjà une forme de classicisme méditerranéen, justement, qui intéresse Andreotti et qui peut-être lui donne l'idée de trouver une voie anti-rodinienne, pour ainsi dire, qui va le sauver et le porter dans de meilleures directions. Et c'est ainsi qu'à partir de 1912, Andreotti devient un sculpteur synthétique et il va commencer à récupérer, d'une part, il reste lié au milieu, disons, Saint-Point, parce qu'il est intéressé, naturellement, il s'intéresse à la danse, à tout ce grand mouvement qui se déroule à Paris entre les années, début des années 10, avant, jusqu'à à la guerre de 14, et donc tout le mouvement des ballets russes, certainement, l'intéresse énormément. Mais en même temps, il va commencer à penser à récupérer ses racines italiennes. La danse est un sujet, naturellement, qui touche beaucoup d'artistes. À droite, vous avez un exemple des plus fameux d'un sculpteur allemand, Georg Kolbe, avec la danseuse qu'on trouve en plusieurs exemplaires, mais ça, on le trouve à l'entrée de la National Gallery de Berlin. Et Andreotti, justement, commence sa série des danseuses qu'il nomme. Ça, c'est tous les plâtres, mais la version finale est en bronze. Et justement, ici, malheureusement, la photo n'est pas très claire, mais enfin, si vous. Regardez, la danseuse est mise sur une base qui a une guirlande de feuilles et de fruits qui est directement dérive directement de Donatello. Ça, c'est la base du fameux David de Donatello en bronze. C'est-à-dire, Andreotti comprend que la solution pour arriver à sortir, à se libérer d'une certaine façon de Rodin est, d'une part, de regarder avec attention les nouveautés de l'avant-garde musicale, de la danse et du synthétisme en peinture et en sculpture, du groupe surtout, du groupe Nabi et Maillol, et d'autre part, de récupérer comme une forme inédite, en un certain sens, de mélanger cet élément français à un élément italien de racines renaissance, disons, avec les origines de la renaissance italienne. Ça, c'est la dernière œuvre que Andreotti fait à Paris, elle est faite pour un grand personnage anglais, diplomate anglais, Philip Sassoon, pour sa villa dans le Kent, mais la guerre commence et Andreotti ne donnera pas cette œuvre à Sassoon. Et il arrive à reporter, après la guerre, à reporter les plâtres en Italie et il va faire la fonte en bronze sera faite plus tard en Italie. Et là, l'élément de la danse et de la danse moderne, surtout la danse de Nijinsky, est celle qui intéresse le plus à Andreotti, mais une forme de stylisation qui récupère le classicisme italien, soit de l'Antiquité, soit de la Renaissance. Et ça, c'est vraiment le chef-d'œuvre de la fin de la carrière d'Andreotti à Paris. La guerre sta per scoppiare et l'Italie reste, comme on disait hier, reste neutre pendant toute la première année de la guerre, tout le 14, et va entrer en guerre en 1915, et Andreotti va être obligé de quitter Paris, parce que lui, il s'était présenté, parce qu'il voulait être volontaire dans l'armée française. Mais comme vous savez mieux que moi, tous les étrangers, les Italiens, n'étaient pas acceptés. Ils ont été, au contraire, ils ont tous été obligés de rentrer en Italie. Et donc, il rentre en Italie et en 1916, il commence sa deuxième ou troisième période d'activité qui vont le proposer comme un sculpteur national, disons, en Italie, mais avec un style complètement neuf et même peut-être imprévu pour les Italiens, essentiellement. Un style qui est, encore une fois, se base sur les deux éléments qu'on a dit. D'une part, la modernité française, et ici, essentiellement, Cézanne. C'est une sorte de traduction en sculpture, non, de la synthèse et de l'analyse et de la synthèse de Cézanne. Le dessin le montre très clairement. Mais en même temps, dans le portrait de Ada Niccolini, on le voit très bien, en même temps, des allusions à la tradition de la Renaissance florentine. Le bras tourné comme ça, vers le spectateur, et avec le coude qui vient en premier plan, c'est une invention qui dérive de l'autre David, celui de Verrocchio, qui se trouve au musée du Bargello. Donc, Andreotti rentre en Italie, il sera accueilli comme le grand rénovateur de la sculpture italienne. Et naturellement, dans les années après les années 20, l'idée de récupérer cette italianité, disons, va être un élément fondamental pour son succès. Heureusement pour lui, il va mourir assez tôt, assez jeune, en 1933, et donc il n'aura pas la douleur, disons, de traverser les années, les pires années du fascisme, c'est-à-dire à partir justement des années 30 jusqu'à la Deuxième Guerre. Alors, le deuxième bloc est une histoire de femme ici aussi. Hein. C'est une sorte de vaudeville, parce que il y a des personnages dans cette histoire. Il y a trois ou quatre personnages et un lieu, une scène presque. Un peintre relativement inconnu ou peu connu, René Pio, un grand critique d'art à gauche, Bernard Berenson, sa maison à Florence, qui s'appelle Villa Itati, qui maintenant appartient à la Harvard University, et donc c'est un des centres plus importants de recherche sur la période de la Renaissance. Sa femme, Mary Berenson, anglaise, lui est américain, Berenson. La villa que Berenson achète en 1903 et à laquelle il fait travailler pendant des années. Ça, c'est la situation actuelle. Et un personnage dont on va parler à deux reprises. Mais on va voir, c'est une sorte de vaudeville. Alors, vendredi 29 octobre 1909, Berenson rentre à Villa Itati. Il rentre de Paris et, selon ses habitudes, il avait vécu pendant 6 mois à Paris en laissant Mary Berenson entre Oxford et Florence. Et il rentre tout content avec un Bouddha sous le bras. C'est ce Bouddha-là, cette tête, qu'il avait acheté à Paris chez Bing. Et en réalité, la tête du Bouddha n'était pas la tête de Berenson, parce que Berenson, la tête, il l'avait complètement perdue à cause d'une fille qu'il avait connue quelques mois auparavant. Une jeune dame, disons plutôt, 26 ans, qu'il avait connue à New York. Et c'est un personnage important. C'était une. Elle travaillait pour JP Morgan dans la, comme, disons, aide bibliothécaire au début. Mais surtout, c'était un personnage remarquable parce qu'elle était d'une beauté équivoque, en un certain sens, parce que elle était mulâtre, on dit comme ça. Elle était fille du premier noir qui avait eu la licence à Harvard. Donc c'était un personnage remarquable du point de vue intellectuel. Et enfin, elle s'occupait de la grande collection de Morgan, et surtout des enluminures. Et Berenson l'avait connue justement à New York l'automne 1908. Et donc, c'est une sorte de passion vraiment violente que Berenson a pour cette jeune fille. Et ça, cette passion comment dire, change même les goûts de Berenson. C'est le moment très relativement bref où Berenson, qui était désormais connu, je ne vous ai pas commenté cette image, mais Berenson était archi connu dans le monde entier grâce à la série des petits volumes qu'il avait publiés sur la Renaissance italienne, d'abord sur Venise, puis en 1896, le volume fondamental sur la peinture florentine de la Renaissance, et puis le troisième volume sur l'Italie centrale. Et c'était un homme qui a immédiatement eu un succès mondial, surtout parce que c'était le grand conseiller pour les achats des grands collectionneurs américains. Les actuelles collections, si vous allez à Boston et vous allez au musée grand musée de Boston, il y a la grande collection de Gardner qui a été pratiquement une collection faite par Berenson. Puis c'était un homme, un cosmopolite. Il vivait 6 mois à Paris, 3 mois à New York, 3 mois à Florence. Et donc, il avait des contacts dans le monde de la culture européenne et internationale. Et c'est un personnage parce que c'était pas seulement un historien d'art, un philologue, mais c'était un homme du monde, un homme qui savait converser, il savait, c'est un homme des salons. Et en 1908, à Paris, il avait fait un séjour qu'il avait porté à connaître les nouveautés de la peinture et de l'art à Paris à la deuxième moitié de l'année. Surtout, il avait visité avec beaucoup d'attention le Salon d'automne de 1908. Et il avait découvert et aimé les premières œuvres modernes, disons, de Matisse. Et au point qu'il a même écrit, chose tout à fait surprenante pour un homme qu'on considérait comme un grand spécialiste et un philologue de l'art de la Renaissance. Il écrit un petit article dans un journal américain pour défendre Matisse. Et Matisse, naturellement, et non seulement, et l'année suivante, en 1909, il va acheter un tableau de Matisse. Et Matisse lui écrit un mot et lui envoie la photo de son œuvre plus fameuse de l'époque, non, de la danse, les deux versions qu'on connaît de la danse, et il envoie la photo de la danse qui n'était pas encore terminée. Et c'est un document important qui se trouve dans la bibliothèque de Berenson à Itati. Ça, c'est la photo. Et derrière, il y a l'écriture de Matisse. Et Berenson achète ce petit tableau, ce petit paysage de Matisse. qui après, dans les années plus tard, dans les années 20 ou 30, je ne me souviens pas, Berenson après va faire cadeau au musée de Belgrade. Le salon d'automne de 1908 présentait une nouveauté que tous les journaux et les critiques avaient signalée, justement la présence d'un peintre relativement peu connu jusqu'à ce moment-là, René Piot, qui se présente avec une énorme fresque, avec un sujet pour une chambre funéraire. C'était deux grands panneaux, requiescant in pace. Et un panneau était perdu avec une inondation, parce qu'ils étaient dans les magasins souterrains du musée des arts décoratifs. Mais on a récupéré l'autre, requiescant, qui se trouve maintenant au musée de Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est un peintre qui vraiment était tout à fait surprenant, non seulement pour l'aspect, comment dire, gauguinien de ces personnages, mais surtout était surprenant pour le fait qu'il se présentait avec de véritables fresques, c'est-à-dire une technique qui, à l'époque, n'était pas pratiquée. Les grandes décorations de Puvis de Chavannes, qui donnaient l'impression d'être des fresques, mais n'étaient pas des fresques, mais des toiles marouflées, c'est des toiles qui étaient, collées au mur, enfin, d'une quelque façon. Mais la fresque, c'était quelque chose qu'on avait presque oublié. Piot a récupéré la fresque parce qu'il a, au début du siècle, dans les premières années, 1901-1903, il avait fait un long séjour à Florence, il avait travaillé sur les primitifs et il avait découvert et étudié la technique. Et c'est là que Berenson, d'ailleurs, l'avait commencé à connaître par hasard, mais sans prêter grande attention. Donc, cette œuvre le frappe, et n'oublions pas que on a un homme d'une quarantaine d'années à cette époque qui a un amour fou pour une dame exotique. Hein. Et donc, il y a même cet aspect curieux qui certainement l'entraînait et le mettait dans une bonne disposition d'âme, disons, de faire une peinture de ce genre. Mais ce qui l'avait frappé le plus, c'était l'œuvre que Piot était en train de terminer pour un homme que Berenson connaissait parfaitement, c'est-à-dire André Gide. Gide avait sa résidence dans la Villa Montmorency à Auteuil, et il avait demandé, on sait, non, il avait tous ses rapports avec les peintres et ses amis, Maurice Denis d'un côté, Van Rieselberg de l'autre, enfin, il avait un groupe d'artistes qu'il aimait, et il demande à Piot, il lui fait faire une grande fresque sur la paroi de la cheminée du salon de sa villa. Ça, c'est l'étude préparatoire. Malheureusement, je ne suis jamais arrivé à la voir directement parce que maintenant, c'est une propriété privée, on n'arrive pas à la visiter. Mais j'ai récupéré des photos faites prises directement grâce à une amie qui m'a trouvé le système pour donner des photos. Et ça, c'est l'œuvre que Piot fait pour Gide, que Berenson va voir en 1908, parce que Piot l'accompagne, ils vont aller faire une visite à Gide, et ils vont voir ses fresques. Et c'est une sorte de tapis oriental, avec cette tombée de fleurs, or, de lumière, de couleurs violentes, et ces groupes de nymphes très mayoles comme structure anatomique. Entre mayoles et Gauguin, pour l'idée de l'orientalisme, l'exotisme, disons plutôt. Dans la partie haute de la composition, il y a ce groupe de nymphes qui dansent et sans doute, c'est un détail que Matisse a connu et qu'il a aimé, qui peut-être lui a servi même comme idée pour son œuvre. Mais surtout, ça a frappé Berenson parce que Berenson a immédiatement mis en rapport ce détail, de même que la danse de Matisse, avec une œuvre qui lui était très familière de la Renaissance florentine. Les groupes, les fresques avec les danseurs de Pollaiolo, qui se trouve dans la Villa della Gallina, c'est cette colline de juste au-dessus de Florence, du côté de Arcetri, l'observatoire de Galilée, pour ceux qui ne connaissent pas Arcetri. Mais pourquoi Berenson a un intérêt particulier? Parce que cette fresque de Pollaiolo a été découverte par sa femme, et c'est elle qui a publié dans Burlington Magazine, à la fin du 19e, en 1896, il me semble, elle publie cette fresque découverte dans la Villa della Gallina. Donc, Berenson connaissait parfaitement, évidemment, la fresque de Pollaiolo, et il est resté frappé par ce rapport évident que Pio présentait dans sa danse pour Gide. Alors, c'est là que naît l'idée à Berenson de commander à Pio la décoration d'une des grandes salles de sa nouvelle villa de Florence, de Villa Itatti, la salle qu'on appelle la library. C'était la grande salle de la bibliothèque, où il y avait une cheminée, et puis toute la bibliothèque qui tourne tout autour de la pièce, et dans la partie haute, il y avait une zone de lunettes, hein, et il fallait qu'on pouvait décorer. Et alors Berenson demande à Pio de faire ses fresques. Pio, naturellement, saute tout de suite sur l'idée et court à Florence et commence à étudier l'espace, les proportions, et commence à penser sa fresque. Et Mary Berenson était au début, elle aussi, elle était parfaitement contente de cette solution. Elle écrit, par exemple, elle, c'est une graphomane, on dit. Elle écrivait pratiquement 3 lettres par jour à ses parents à Oxford. Donc, on a une documentation au jour le jour, vraiment, de ce qu'elle faisait. Et « He's the one person who paints nowadays the real old fresco. » C'est-à-dire, elle reste frappée, le fait que c'est le seul peintre qui peint « the real old fresco ». Et nous sommes tous vraiment très contents qu'il puisse faire ce travail, qui certainement va être un travail excellent. Et Pio, donc, passe, nous sommes en 1909, passe l'été, le printemps et l'été à Florence, et il commence à étudier, à faire toute une série d'études en aquarelle du paysage, avec des œuvres qui sont encore conservées à Villa Itatti. Surtout le paysage. Et donc, lui, c'est essentiellement prêt. À partir du mois de novembre de 1909, il est prêt pour commencer à travailler. Et il montre des dessins et des aquarelles à Mary Berenson, qui écrit que « they are really splendid ». Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire cette œuvre. Et donc, tout commence c'est la décoration de la library, qui a été guidée en un certain sens par l'architecte qui suivait les travaux. C'est un architecte anglais qui s'appelle Cecil Pinsent, qui après est devenu plus qu'un architecte véritable, c'était un architecte de jardin. C'est un des grands spécialistes du jardin de la Renaissance et du jardin contemporain. Il a fait en Toscane, on trouve une trentaine de jardins projetés par Pinsent. Ça, c'est le jardin de Villa Itatti. Et on voit très bien, donc c'est un jardin reconstruit sur les modèles du jardin à l'italienne, non, du jardin à l'italienne de l'époque de la Renaissance. Et ça, c'est la library où Pio doit peindre tout en haut dans les lunettes. En décembre, encore, il ne peut pas commencer parce qu'il y a des problèmes avec Pinsent. Pinsent ne lui a pas donné les dimensions exactes. Il voulait les mesures de l'architecture pour pouvoir préparer les dessins. Et il écrit à un certain moment, et bon, ils doivent attendre. Et donc, au mois de décembre, il écrit très fréquemment soit à Mary Berenson que à Berenson. Et il rentre à Paris et il écrit à Berenson: « Je m'enferme pour repenser aux vignes et aux oliviers sacrés et ne pas détruire en moi la sensation antique que j'avais vécue si forte cet été. » Donc c'est le paysage est le sujet qui domine, disons, dans la pensée de Pio pour cette décoration. Et rien à faire. Au mois de décembre, on ne peut pas commencer. Et alors, il rentre à Paris et commence à penser au sujet, parce que ça ne pouvait pas être seulement une décoration de paysage. Il devait y avoir même des personnages. Et alors, il écrit une lettre très longue et qui est très, très intéressante sur ce moment de formation de l'image. « Cher ami, me voici retrempé dans la boue de Paris, sans aucune joie ni enthousiasme. Maintenant, je suis florentin et le ciel italien me manque étrangement. Je commence à m'enfermer avec mon travail et ma vision prend corps. J'ai été ces jours-ci remettre les ors sur la fresque de Gide, mais c'est une chose toute différente que je vois pour votre bibliothèque, toute blonde, où le ciel prendra une importance capitale. Chez Gide, j'ai voulu comme un tapis persan, très chargé et sans atmosphère, tandis que au Tati, l'atmosphère aura un grand rôle. Ce sera une chose toute limpide et l'émotion d'un beau jour clair. » Donc, évidemment, déjà, Pio pense à une décoration qui est nettement différente par rapport à celle de Gide. Le problème est l'iconographie. Qu'est-ce qu'on peut représenter dans la bibliothèque de ce grand historien d'art? Il faut même peser cet aspect, c'est-à-dire d'un peintre qui est en train de peindre pour le plus grand historien d'art au monde. J'avais d'abord songé à une série de motifs virgiliens. Et ça, on sait que même Mary Berenson savait que l'idée, elle approuvait l'idée de faire un sujet dans l'ordre des géorgiques, plus ou moins. Parce que l'idée de s'inspirer aux géorgiques créait un rapport, comment dire, cohérent avec le paysage toscan. Le paysage qu'on trouvait à l'extérieur, parce que Villa Itati, vous avez vu, est sur la colline au-dessus de Florence, au milieu de la campagne. Au lieu d'un sujet précis, j'ai essayé de vous mettre dans une ambiance générale dont l'imprécis vous donne matière à rêve et laisse à votre esprit son élasticité et sa faculté de sentir. Et donc, il imagine une série de décorations sur les quatre murs de la bibliothèque, essentiellement le contraste est entre l'exaltation inspiratrice et l'exaltation créatrice. C'est-à-dire une sorte de contraste traditionnel et à l'antica, on dirait, non, entre l'esprit apollinien et l'esprit dionysiaque, non. Et donc les vendanges d'un côté, la musique, les amours et autres sujets de ce genre. Une sorte d'iconographie, disons, qui mélange orphisme. Édouard Schurer, Nietzsche, naturellement, et Gide lui-même, surtout le Gide des nourritures terrestres. Mais Pio dit, mais ne vous préoccupez pas du sujet, parce que le sujet ne vaut rien par rapport à la forme. c'est la qualité de la forme qui va donner le sujet. Alors, cette idée de réduire l'aspect littéraire pour exalter au contraire l'aspect formel de l'image dépend évidemment de l'attention que Pio porte aux théories de Berenson. Parce que Berenson un des motifs de son succès était qu'il avait créé une sorte de théorie de l'art très simple, très linéaire et très compréhensible. Et un des sujets essentiels était le binôme décoration-illustration, c'est-à-dire la forme et le sujet. Le brave Pio, plus tard, en 1917, va écrire un texte incroyable. En 1917, un peintre comme Pio, qu'on a vu jusqu'à présent, qui va défendre la peinture cubiste. Et en parlant, en utilisant justement la formule de Berenson, entité plastique et entité narrative, c'est-à-dire en distinguant la forme du contenu et du sujet, où la peinture, l'illustration de Berenson se réfère naturellement au sujet, à l'aspect littéraire de l'œuvre d'art. Tandis que Berenson dit que, bon, le sujet doit y être à un certain sens, mais ce qui compte, c'est l'expression picturale. En définitive, donc, Pio va dire que cette fresque ne soit qu'un accompagnement, une rêverie, où le paysage va avoir un poids remarquable. Mais il y a un autre lien important avec ce type d'interprétation de l'œuvre d'art, avec un texte que Matisse a publié en 1908, les fameuses notes d'un peintre que Matisse publie en 1908, où Matisse parle du fameux fauteuil de l'intellectuel. Ce que je rêve, ça c'est Matisse qui écrit, mais vous vous rendrez compte que les termes se retrouvent, les termes de Pio. Ce que je rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit pour tout travailleur cérébral, pour l'homme d'affaires aussi bien que pour l'artiste des lettres, par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d'analogue à un bon fauteuil qui le délasse des fatigues physiques. Ça, c'était les mots fameux de Matisse. Et c'est ce que Pio veut faire pour Berenson, un fauteuil pour l'intellectuel. Et donc Pio, à la fin de son travail, a préparé quelque chose comme 320 dessins pour préparer sa fresque. Et il va les envoyer à Berenson pour qu'il puisse les voir et les juger, les commenter. Et Pio, dans la lettre d'accompagnement, écrit « J'ai quelquefois retourné un mouvement 40 fois avant de trouver le bon. Je vous envoie toute cette genèse de chaque mouvement et comme ça, cela pourra vous amuser pour voir mon effort, etc. » Et en effet, on se rend compte que les dessins, moi j'ai eu la possibilité de les voir chez la nièce de Pio qui a conservé encore une bonne quantité de dessins. Et ce sont des dessins où cet aspect, cette recherche continue de la simplification. Non, ça, c'est un dessin qui est tout à fait exemplaire. Donc, ce travail continue sur le profil du personnage, non, pour trouver la forme plus synthétique possible. Les dessins sont très, très variés et d'une grande qualité dans certains cas. Ça, c'est le dessin final, non, avec le carré qui sert pour transporter le dessin sur le mur. C'est pas exactement le carton parce que le dessin est petit. C'est la mise au carreau, on dit. La mise au carreau. Mise au carreau, ça sert pour transporter le dessin sur le mur. Oui, là, c'est le même personnage qui est étudié sur plusieurs points de vue qui tournent. Et alors, on se rend compte que déjà dans cette phase, Pio, ça, c'était le grand problème de Pio, et c'est probablement la raison même de l'échec, une des raisons de l'échec, c'est que Pio pensait trop, et pensait trop de plaire à Berenson, et c'était une préoccupation continue. Et Et c'est là que il a pensé qu'il aurait dû, en considérant la personnalité de Berenson, il aurait dû essayer d'évoquer le plus possible une culture de la Renaissance. Ça, ce dessin, par exemple, est tout à fait typique parce que c'est une réinterprétation d'un des sujets plus fameux, encore une fois, de Paul Laiolo. Et c'est un des artistes que Berenson aimait en particulier. C'est ça, c'est le détail du premier plan du grand tableau qui se trouve à Londres, à la National Gallery à Londres, de la martyre de Saint-Sébastien. Et enfin, ce paquet de dessins de 300 feuilles qui vont circuler entre Paris et Florence, Pio les montre à Paris, un ami les commente et dit « J'ai vu toute la série des dessins de Pio pour Bibi ». C'est Bibi, c'est pas Brigitte Bardot, mais c'est Bernard Berenson. Et c'est tellement plus large, plus gras de traits. Cela sent surtout tellement moins le modèle qui a posé. C'est plus un dessin de maître. Cela sent le trait sûr de Ingres. C'est terriblement franco-italien. Donc, ces dessins sont très appréciés par cet ami, mais en même temps, Gide, auquel Pio a montré ses dessins, Gide, comme toujours dans son journal, enregistre la visite de Pio et fait un commentaire, un véritable désastre. Était hier soir chez Pio, qui part bientôt pour Florence avec une nouvelle collection de dessins qu'il désire me montrer, encore plus que je ne désire les voir. Ce sont documents pour les nouvelles fresques qu'il prépare. Ces dessins n'ont ni la décision, ni la gravité, ni même la séduction des premiers. Ils sont plus larges, ne trouvez-vous pas ? Répète à tout instant Pio, en quête d'un compliment que je ne peux faire. Plus aisé peut-être, et comme l'on dit, agréablement, plus heureux, c'est-à-dire obtenu avec de moins en moins de peine. Mais c'est vers la rigueur que je voudrais le voir tendre. Il lui était séant de se maintenir près des maîtres. L'intelligence de ceux-ci suppléait avantageusement la sienne qui la fort médiocre. À prendre ses aises, il étale au grand jour une nature assez commune que l'art le plus strict pouvait seul amener à bien. Ça, c'est le commentaire de Gide au dessin, aux 300 feuilles de dessin du pauvre Pio. Et pourtant, cela est même injuste, parce qu'en réalité, le travail que Pio avait fait est justement d'essayer de s'approcher au maître et de simplifier le plus possible ses dessins. Enfin, les choses sont allées comme ça. En juillet 1910, Pio s'installe au Tate en profitant du fait que les deux Berenson sont partis et ont laissé la maison. Et lui, il arrive avec toute la famille et surtout sa femme, une très belle femme, Marie-Justine Beckler. Et il se met donc au travail. Et avant de commencer le travail, il fait toute une série de premières tentatives pour être sûr de sa maîtrise de la technique de la fresque. Et alors, on conserve encore au Tate des tuiles peintes en fresque pour faire des essais de technique. Et finalement, il continue à faire des essais de paysages. Il fait encore une nouvelle série très importante d'aquarelles qu'il va exposer à Paris en obtenant un remarquable succès. Et où on comprend que même sur le paysage, Pio regarde les grands maîtres de la Renaissance florentine. Alessio Baldovinetti, ça c'est le détail d'une fresque fameuse de ce peintre très près de Piero della Francesca, 1460. C'est la fresque qui se trouve dans le petit cloître d'entrée de l'église de la Santissima Annunziata. Et enfin, il arrive à accrocher le mur et commence à dessiner. Et fait on a les photos, c'est un document très rare et important, les photos des sinopies, c'est-à-dire le grand dessin sur le mur, directement sur le mur, avant de peindre à la fresque. Et donc là, on va de gauche à droite. Ces photos vont être envoyées à Mary Berenson, qui se trouvait entre Venise et Oxford. Et là, tout d'un coup, on avait vu que Mary était tout à fait contente, elle avait vu les dessins, elle disait, on nous sommes vraiment charmés par cette idée. Bon, tout d'un coup, elle change complètement d'impression et elle écrit, je ne peux pas avoir ces fat nude Parisian models. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir ces femmes, ces modèles de femmes grasses parisiennes. Parce que moi, il doit faire des femmes pastorales. Et elle écrit à Berenson, au mari, et lui dit, I do think we might. Nous devons faire quelque chose, parce que ici, je vois un désastre. Berenson était, à ce moment-là, est en train de voyager sur tous les quatre coins d'Italie avec la belle D'Acosta Green. Et donc, ils s'en foutaient pas mal de ce qui pouvait se passer chez lui. Et surtout, il ne se fiait pas du tout de sa femme, de ce que lui disait sa femme. Pio continue à écrire et il dit que le paysage est l'élément essentiel. Et je voudrais exprimer la Toscane paysage humain. C'est-à-dire, il veut essayer de traduire cette idée d'une Toscane de la Renaissance, non, d'une Toscane humaniste. C'est ce que les maîtres ont bien compris, il écrit encore. Benozzo Gozzoli. Il expose ses aquarelles à Paris et un ami de Gide, Jean Schlumberger, fait un compte-rendu de cette exposition. Il dit, dans ces aquarelles de fleurs ou de paysages, René Pio y a gagné une ampleur et une sobriété de moyens qui enchantent. Donc là, même la vie de Gide, il ne faut pas oublier que Pio avait étudié Delacroix dans le détail. Une de ses œuvres plus fameuses qu'on trouve encore facilement sur le marché, c'est un texte qui s'appelle « Les palettes de Delacroix ». C'est toute une étude qu'il a faite sur la technique de Delacroix. Il a été lui-même élève de Gustave Moreau, donc d'un peintre couleur, non ? Et il était ami de toute le groupe fauve. Et donc, ces paysages ont ce caractère de couleur très forte, non, comme on l'a vu même dans les aquarelles. Et donc, il se met au travail et de la sinopia, on passe à la fresque. Barton, c'est un photographe ami de Berenson, un photographe important parce que c'était un des premiers photographes qui a travaillé sur l'Égypte. Et Mary Berenson est absolument affreusement frappée par ces fresques. Les types et les formes qui évoquent des modèles parisiens sont tellement fearfully, affreusement out of place dans un paysage toscan. La composition est spotty et mécanique. Berenson continue en réalité à tourner en Italie avec Belle Green et donc et avec laquelle il a un intérêt très fort pour l'Orient. Ça, c'est un élément sur lequel on doit commenter. Entre Pio et Mary Berenson, tôt ou tard, il y a une communication. Et alors, Pio commence à comprendre que Mary Berenson a quelque chose qui ne va pas. Et alors, il se préoccupe et il essaie de la convaincre que les choses sont en ordre, en réalité, et tout va bien. Et il lui écrit à un certain moment qu'elle ne comprend pas. Elle n'arrive pas à comprendre deux choses. Un aspect est essentiellement technique, c'est-à-dire que la fresque est fraîche, et la fresque doit encore essuyer. Et donc la couleur va se rabaisser en un certain sens. Et donc elle ne peut pas juger la violence de la couleur comme elle la voit maintenant, mais elle doit attendre quelques mois. Et d'autre part, elle l'accuse d'avoir d'être conditionnée par la peinture de la Renaissance. Et elle l'attaque, Pio attaque Mary Berenson sur son terrain, pour ainsi dire, non? Et le terrain du connaisseur. Laissez-moi vous dire combien, pour juger une œuvre moderne, il faut s'abstraire de l'amour des maîtres. Vous êtes sûrement, aidée par Bibi, l'une des femmes ayant la culture la plus complète des maîtres italiens. Peu d'artistes modernes ont autant que moi aimé, consulté, copié les maîtres. J'en suis arrivé à cette conclusion qu'il n'y a plus un seul morceau de peinture authentique, j'entends du point de vue de la couleur. De toute la peinture italienne, je l'ai souvent répété, il ne reste plus que trois pommes. Ces trois pommes, celles-là. Le bout de frise, c'est-à-dire le bout de frise qu'on a découvert il y a quelques années derrière une toile de Tintoret à l'hôpital de San Rocco à Venise. Ça, c'est les trois pommes de Pio, que Pio cite. Et évidemment, quand il parle des trois pommes de Tintoret, il imagine, non, la version moderne des trois pommes, les cinq pommes de Cézanne. Ça, c'est comme ça, entre parenthèses, c'est un petit tableau qui est important parce qu'il appartenait au frère Stein. Et donc, c'était une œuvre que Berenson connaissait parfaitement parce qu'il était ami de Stein et Pio même connaissait. Et alors, Tintoret, Cézanne, Pio, Mary avec Pinsent, écrivent sans cesse à Berenson et il lui crée une telle condition de il est tellement conditionné que quand il va rentrer dans sa maison, tout le monde craint sa réaction. Et il arrive le 12 novembre. Et quand il rentre, il dit que il est toujours avec Belle. Et en réalité, la fresque lui plaît. Il reste enthousiaste. Tout le monde était préoccupé. Il arrive et il est parfaitement content. Célestial, il dit. Et tout va bien et tout est splendide. Et ça, c'est un aspect qu'il faut, c'est documenté. Alors, il faut le commenter après. Parce que plus tard, à la fin du travail, Berenson va revenir à la fin de l'année, va rentrer après son long séjour hors de Florence. Il va rentrer et, naturellement, conditionné par ce bombardement de commentaires de Mary Berenson et de Cecil Pinsent, il aura une réaction complètement inverse. Et alors, le compte-rendu de Mary Berenson est intéressant parce que la première visite, tout le monde était préoccupé et lui, il était très nerveux parce qu'il avait Belle à côté. Il était très nerveux et au contraire, tout se résout merveilleusement. C'est la deuxième fois. Il rentre, il était parfaitement content, tranquille, comme ça, et il a une réaction, un véritable désastre devant ses fresques, du moins comme ça on raconte, qu'il paraît qu'il tombe par terre et il a une fièvre de cheval pendant des jours. Le pauvre Pio, naturellement, pour lui c'est un échec incroyable, parce que la décision que les Berenson vont prendre, c'est d'arrêter les travaux, d'essayer de voir ce qu'on peut faire, si couvrir les fresques, détacher les fresques et les envoyer à Paris, ou d'autres solutions à voir. Détacher les fresques, c'est la première chose qu'ils vont essayer de faire. Un restaurateur le fait un devis, mais c'est pratiquement impossible. Et alors, ils vont décider de couvrir les fresques. Et les fresques vont rester couvertes jusqu'en 1977, quand un directeur de l'Etati, sollicité par mon professeur de l'époque et moi-même, il a accepté de démonter la couverture. Parce qu'en réalité, ça a été fait avec beaucoup d'attention. C'est une toile avec marouflé, justement, et qu'on a pu facilement détacher. Mais alors, la question fondamentale, quelle est-ce ? Comment est-il possible que Berenson ait commis une erreur de ce genre ? Berenson va écrire à Pio avec beaucoup de fatigue et de douleur, en un certain sens. Il va écrire une lettre assez belle, très dure, mais belle, en un certain sens. Il explique les raisons pour lesquelles il ne peut pas conserver ses fresques. Et il dit que la couleur est tellement violente que lui, il ne pouvait absolument pas accepter ces images et que lui, il pensait, il imaginait pour la structure, vous avez même l'architecture, il imaginait quelque chose de très pâle. Probablement, il pensait à quelque chose comme, lui, il parle de sa bibliothèque à la Michelozzo, c'est-à-dire l'architecte de la bibliothèque de San Marco, non, à Florence. Il pensait quelque chose de très pâle, de léger, de transparent, en un certain sens. Mais s'il imaginait ça, comment pouvait-il penser de demander à Pio, qu'il connaissait parfaitement, il avait vu les choses de l'exposition du salon d'automne, il avait vu les fresques de Gide. Il savait parfaitement que Pio est un peintre couleur. Il ne pouvait pas imaginer qu'il puisse faire une chose à la Puvis de Chavannes. Et donc, il y a une rupture violente. Pio même l'accuse d'avoir pratiquement conditionné sa carrière, parce que Berenson était tellement fameux que l'histoire, naturellement, si on avait connu cet épisode, pour Pio, c'était un véritable désastre. Mais l'amitié entre eux va rester. Pio arrive à se renouveler et à retrouver une nouvelle carrière, pour ainsi dire, comme décorateur pour le théâtre. Ça va être un grand peintre de scène, et grâce surtout à l'amitié avec Rouchet et son ami le musicien Paul Ducasse. Et donc il va travailler pour les ballets et pour le théâtre des arts comme décorateur, comme dessinateur, et il va obtenir un grand succès. En plus, encore comme illustrateur, lui, il va faire une œuvre très importante d'une presque une centaine d'illustrations pour l'histoire des arts que Louis Gillet va faire dans le volume, dans la série des volumes de l'histoire de France. Et c'est une édition des années de 1922, et pour laquelle il va faire une quantité énorme de dessins, de copies des grands maîtres du Moyen-Âge français. Par ailleurs, de très beaux dessins qui sont publiés dans ce... Et il va demander à Berenson si éventuellement il peut être intéressé à proposer les originaux des dessins à une bibliothèque ou une université américaine. Alors, si Berenson pensait, il le dit dans la lettre, on comprend qu'il imaginait peut-être quelque chose à la Puvis de Chavannes. Puvis de Chavannes que lui, Berenson, avait connu et admiré beaucoup à Boston. La grande décoration de la Public Library de Boston et des choses en azur, transparentes. Et Pio ne pouvait pas faire une chose de ce genre. Ce n'était pas dans son esprit. Alors pourquoi il a demandé à Pio et il n'a pas demandé, par exemple, à Maurice Denis, qui était probablement beaucoup plus à la Beato Angelico. Ça, c'est Maurice Denis. Pourquoi, alors, s'il voulait une chose transparente et claire, il n'a pas demandé à Maurice Denis? comme l'a fait Charles Stern. Ça, c'est les décorations de Denis pour Charles Stern. À la Florentine, une sorte de renaissance florentine transparente, légère. Pourquoi il n'a pas demandé ça? Il n'a pas plutôt... Et au lieu de demander à un peintre matissien, presque, non, comme Pio. C'est là que le rôle caché, si on veut dire, de Belle d'Acosta Green, et cet amour pour Belle d'Acosta Green. Parce que c'était le moment où Berenson lui-même admettait qu'il était complètement transporté vers une culture orientale, vers l'Orient, et avec des phrases qui sont remarquables, il va écrire, par exemple, que « Je suis profondément intéressé à la histoire et à l'art de Babylone et de l'Égypte, et en général à l'art de l'Orient et aux choses de l'Orient et du primitif. » Et il va écrire à Mary Berenson, qui se déchire les cheveux, qu'il veut se consacrer « the art of unself-conscious savages », c'est-à-dire aux sauvages unself-consciousness. Alors, imaginez Berenson, grand spécialiste de la Renaissance italienne, qui veut se consacrer aux études des sauvages. C'est pour sa femme, c'était vraiment le signal que c'était un homme qui a perdu complètement la raison. La marée de mes intérêts monte fort et rapidement vers l'Est. Et je découvre que la Renaissance n'est plus mon étoile polaire. Alors, c'est l'exotisme de Belle d'Acosta Green. Avec, d'ailleurs, on sait qu'il a fait un grand cadeau à Belle, et il a fait un hommage de l'édition française des Mille et une Nuits. L'édition illustrée des Mille et une Nuits, c'est une œuvre importante, très précieuse même, comme du point de vue de du collectionnisme bibliophile. Ils vont ensemble voir en 1910 la grande exposition, la première grande exposition d'art de l'islam à Munich. Et c'est elle, cette sorte de hypatie afro-américaine, unusual, on l'appelait une beauté unusual. Mais, ça c'est Mary Benson qui admet ça, remarkably attractive, remarquablement attrayante. Et alors, c'est là probablement une des raisons du choix de Pio d'abord, et puis le choix est exactement dans le moment où Berenson a perdu la tête pour Belle, mais la marche arrière qui sera faite en décembre est faite quand l'histoire avec Belle s'est interrompue brusquement. En septembre-octobre 1910, Belle probablement est enceinte, et elle interrompt brusquement les rapports avec Berenson. Et Berenson, pendant 6 mois, pratiquement, il a essayé, il paraît, même du suicide et choses de ce genre. C'est-à-dire, ça c'est un document que je trouve très important pour... ce n'est pas du gossip, mais parce qu'il y a des documents qui nous mettent sur cette ligne d'interprétation. C'est un dessin que... de Pio, celui à gauche, un dessin de Pio que Berenson a demandé d'avoir comme cadeau de Pio pour le conserver. Il a été conservé, il est encore à Villetta Atti, où Berenson a écrit sur le dessin la phrase que je vous ai transcrite dessous, c'est-à-dire ça, c'est elle ressemble extraordinairement ressemblant Belle Green quand je l'avais connue en 1908. C'est-à-dire, il veut ce dessin de Pio parce que ce dessin, pour lui, c'est l'image dessinée de Belle Green. Et donc, c'est un échec esthétique, d'une part, mais c'est un échec de leur existence, soit de Berenson avec Belle, soit de Berenson avec sa femme. Il va écrire que ça va être leur failure, leur échec. Et puis Berenson, beaucoup plus tard, va dire que comme mari, je n'ai pas été trop méchant. Rarement j'ai agi sans considérer les éventuels effets de mon action sur ma femme. Et quand l'instinct me transportait, j'étais toujours conscient. Et cette conscience m'a toujours reconduite sur la juste route. Et comme ça, while my kind regards and truly yours, de Berenson à sa femme. Et comme ça termine l'histoire vaudevillesque de ces personnages. Merci.